Ma sœur, mon amie, toi qui es venue ce matin dans ce temple, prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, sois sans crainte. Le Seigneur est là. Il t'appelle, il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard, au milieu de l'agitation de notre quotidien. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites tout simplement à vivre un temps où par ton esprit, nous apprenons à nous retrouver les uns avec les autres, en communion avec Jésus-Christ. Louange à toi, Dieu notre Père. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre le livret bleu des spontanés que nous ouvrirons à la page 8, c'est le temps de la Passion. Je vous invite à vous lever pour chanter « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique ». Ma joie et ma vie, tu es le souffle de mon existence, tu es la source de ma musique et le rythme de mon sang, tu es le feu qui me saisit et m'encourage à aller encore plus loin sur la route que tu traces pour moi. Dieu, ma joie et ma vie, tu fais de ma pauvreté ta demeure de silence et de méditation où chacun peut déceler le secret de ta présence. Dieu, ma joie et ma vie, ton amour et puissance. Et le monde prend naissance continuellement à cause de la confiance que tu places en chacun de nous. Dieu, ma joie et ma vie, tu es fidèle à tes promesses depuis hier et jusqu'à demain, inlassablement. Ta tendresse n'a pas de fin. Loué sois-tu, ô mon Dieu. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 127. De ce psaume, nous le chanterons en entier, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you.
place. Écoutons maintenant comment Dieu nous révèle son amour. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Connaître, ô Dieu, ton amour et ta puissance. Prions ensemble. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais déplacer des montagnes. Mais avec la foi qui est la mienne, mon Dieu, donne-moi la force de gravir celle qui se dresse sur mon chemin. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais vider les océans. Mais avec la foi qui est la mienne, mon Dieu, donne-moi la confiance quand les eaux s'agitent. Si j'avais la foi comme un grain de moutarde, je pourrais faire de grandes choses. Mais avec la foi qui est la mienne, mon Dieu, donne-moi de me réjouir des grandes choses que tu fais. Je n'ai pas la foi comme un grain de moutarde. Elle est si petite, la foi qui est la mienne. Elle me rappelle chaque jour comme j'ai besoin de toi. Viens à mon aide, ô mon Dieu. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Nous aussi, nous pouvons recevoir cette parole. Le Seigneur pose un regard favorable sur chacun de nous. Il délivre chacun de nous de notre culpabilité. Il répare en nous ce qui est brisé et il renouvelle en nous ce qui est fatigué. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Et nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père. Je crois qu'il a créé le monde pour l'homme, pour la femme et pour l'enfant. Je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour. Il rend possible toute espérance. Amen. Prenez place. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voici tels que nous sommes pour écouter ta parole ce matin. Nous sommes ici chargés de ce qui fait l'ordinaire de notre vie. Mais nous voulons maintenant faire de la place à la présence de ton Esprit dans nos cœurs, mais aussi dans notre intelligence, afin que nous soyons ouverts et disponibles à ce que tu veux nous dire. Que ta parole de vie devienne pour chacun d'entre nous une parole pour nos vies. Amen. Alors pour notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai choisi de garder un des textes proposés pour les lectures du jour, à savoir un extrait de l'Évangile de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs renversa leur table. Et il dit aux marchands de colombes, « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévorera. » Mais les Juifs répondirent, « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Alors les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en 3 jours ?» Mais lui parlait du temple de son corps. Aussi, lorsque Jésus se leva d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait parlé ainsi, et ils crurent à l'Écriture, ainsi qu'à la parole qu'il avait dite. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et je vous invite à prendre dans les recueils de chants le cantique numéro 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Nous chanterons les 3 strophes de ce cantique. Je vous invite à vous lever. Cantique 219. Je me suis trompée peut-être. D'accord. Non.
De lumière, esprit de vie, qui descendra sur toute chair, par toi la grâce de Jésus-Christ est une flamme en nos déserts, viens en
prenez place. Chers amis, frères et sœurs, l'histoire de Jésus qui chasse les vendeurs du temple à Jérusalem est présente dans les 4 évangiles, mais à des places différentes. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, situent cette intervention à la fin du ministère de Jésus, à la fête des rameaux, au début, si j'ose dire, de cette dernière semaine de vie. L'évangile de Jean, lui, raconte cette scène au commencement du ministère de Jésus, juste après les noces de Cana. On interprète souvent l'intervention violente de Jésus au temple comme une dénonciation des abus des marchands et des changeurs d'argent qui auraient profité de la piété populaire pour s'enrichir. Mais est-ce bien de cela qu'il s'agit dans le texte que nous venons d'entendre ? Peut-être que Jésus va plus loin que cette dénonciation un peu simpliste. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. En quelques mots, l'évangéliste Jean situe le temps et l'épisode qui est raconté. Alors, dans les quatre évangiles, Jésus se rend immédiatement au temple, ce haut lieu de Jérusalem qui fait de cette ville la cité sainte d'Israël. Et contre toute attente, Jésus n'y va pas pour prêcher ou enseigner, mais il se rend au temple pour accomplir une action imprévisible et spectaculaire. Cet acte prophétique se situe dans la lignée des prophètes qui l'ont précédé, Ésaïe, Jérémie, Michée, Osée. Une précision tout de même, si nous trouvons ce texte des marchands chassés du temple dans les quatre évangiles, il est possible de comprendre le geste de Jésus visant peut-être ceux qui abusaient de la foi des pèlerins. Chez Matthieu et Marc, Jésus chasse non seulement les marchands, mais aussi ceux qui achètent. En associant ces deux versets, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations », comme le disait le prophète Ésaïe, suivi de ce reproche, « Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs », reprenant une citation de Jérémie. Ces évangiles souhaitaient dénoncer certainement une certaine hypocrisie religieuse. Ce n'est pas le cas dans l'évangile de Jean. Réputé pour être le plus spirituel des quatre évangiles, c'est pourtant celui-là qui est le plus concret et le plus détaillé quant à la rédaction de cette intervention, disons, musclée de Jésus. C'est le seul évangile où nous trouvons la mention du fouet fait avec des cordes. Nous pouvons néanmoins observer une nuance. Ici, Jésus ne s'en prend ni à la malhonnêteté des marchands, ni à l'hypocrisie des pèlerins, mais en faisant allusion aux trois catégories d'animaux, les bœufs, les brebis et les colombes. L'évangéliste Jean souligne que c'est à l'ensemble du système sacrificiel que Jésus s'en prend ainsi. Ici, il n'est plus question d'une maison de prière transformée en caverne de bandits ou de voleurs, comme dans les autres évangiles, mais il est question de la maison du Père transformée en maison de trafic. Et en rédigeant ce texte, Jean a peut-être en tête une autre référence scripturaire empruntée cette fois au livre de Zacharie. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur Tout-Puissant en ce jour-là. Et c'est dans ce verset que Jésus parle pour la première fois de Dieu en tant que Père. Et il en parle avec une autorité proche de la colère, bien que ce mot ne soit pas dans le texte. En tout cas, c'est par cet emportement qu'il se positionne par voie de conséquence en tant que Fils. Cela marquera les esprits, en tout cas celui de Jean, puisqu'il place ce récit au tout début de son évangile. Au fond, avec ce geste, Jésus va plus loin qu'il n'y paraît. Il pose la question de la nature de la religion selon une des étymologies de ce mot qui signifie être relié à Dieu ou être en relation avec lui. Quel est le véritable échange du croyant avec Dieu? Quelles sont les motivations du croyant à pratiquer sa religion? Comment le croyant est-il en relation avec son Dieu. Et la question se pose aussi pour les croyants que nous sommes de notre relation aujourd'hui avec le Dieu de l'Évangile. Jésus pose aussi une question sur la nature du temple. Est-ce un lieu pour tous ou seulement pour quelques privilégiés? Parce que dans ce texte, Jésus donne un coup de fouet, voire même un coup d'arrêt au culte sacrificiel. Littéralement, il l'expulse, qui est le même verbe employé pour chasser les démons. Mais quel démon Jésus est-il en train d'expulser ici? Il s'agit de la tentation qui gangrène les esprits et les cœurs, et par voie de conséquence, les comportements. Il s'agit de l'exclusion. Personne ne le comprend pour le moment. Et les Juifs qui entourent Jésus s'interrogent. « Tu fais cela, mais quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et là encore, la réponse de Jésus arrive contre toute attente. « Détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. » Personne ne comprend encore de quoi il s'agit. Les propos décalés se mettent en place, ce quiproquo est familier dans l'écriture de Jean. Il traverse d'ailleurs tout son évangile. Et il invite sans cesse ses lecteurs ou ses auditeurs à aller au-delà du sens premier et à rechercher inlassablement une autre signification, qu'elle soit spirituelle ou existentielle. Et si Jésus est en train de révéler le Père, il est en train d'induire une nouvelle réflexion sur une autre forme de relation des croyants à Dieu, qui ne s'inscrira plus dans le registre comptable des offrandes ou des sacrifices. Il n'y aura plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon Jésus lui-même. Mais à cet instant précis, personne ne comprend qu'il parle de sa propre personne. C'est bien trop tôt. Le culte sacrificiel serait donc remplacé par un autre type d'échange, un autre type de relation qui serait plus proche d'une union spirituelle. Mais Jésus, en fait, ne dit rien des modalités de cette nouvelle façon d'être en relation avec Dieu. Chacun reste sur sa faim, et les disciples en particulier devront attendre la résurrection de Jésus pour comprendre enfin ce qu'il a dit. Et nous sommes invités à faire attention à ce détail. Nous savons que les évangiles ont été écrits après Pâques. Dans ce passage, il est précisé par 2 fois que les disciples se souvinrent. Il s'agit donc d'une compréhension des choses a posteriori. Et l'acte prophétique de Jésus n'a pas de sens au moment où il se produit, mais prendra son sens plus tard, après Pâques. Tout cela est subtilement mentionné dans le texte. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et là où les autres évangiles parlent de rebâtir le temple, qui est l'inverse de détruire, Jésus ici oppose la destruction du temple par le relèvement, qui est un autre mot pour parler de la résurrection. Et l'évangéliste Jean prend soin de préciser, mais lui parlait du temple de son corps. Il tient essentiellement à ce que le lecteur de son évangile comprenne le sens caché de la parole de Jésus. Ici est annoncée une autre pratique de la religion, une religion en constante évolution, une religion qui abandonne les différents rituels pour faire place à quelque chose de beaucoup plus libérateur, mais aussi de beaucoup plus exigeant, qui est la pratique de la foi, une foi qui ne se laisse plus enfermer dans des rituels dont on ne comprendrait plus le sens. Mais déjà, le peuple d'Israël se distinguait des peuples environnants en rendant un culte à un Dieu qu'on ne représentait plus sous aucune forme de statut. Les sacrifices et les rituels avaient une grande place dans la pratique religieuse juive. Les prophètes avaient déjà mis le peuple en garde en dénonçant une pratique éventuellement superstitieuse de tous ces rituels, rappelant que Dieu désirait avant toute chose que sa loi soit inscrite dans le cœur des hommes plutôt que sur des tables de pierre. Il rappelait que Dieu espérait que les hommes changent leur cœur de pierre en cœur de chair et qu'ils considèrent comme importante la relation à l'autre. Être attentif à la relation à l'autre, c'est être attentif à la relation à Dieu. Et Jésus, avec les marchands chassés du temple, annonce la suppression des sacrifices. Et avec l'annonce de la destruction du temple, Jésus souhaite mettre fin à une pratique religieuse basée sur l'exclusion. En effet, le temple qui aurait dû être une maison de prière pour tous les peuples, selon le prophète Ésaïe, est devenu par sa construction même le lieu d'une exclusion. Une exclusion justifiée par l'un des piliers de la religion juive de cette époque, à savoir une distinction entre le pur et l'impur. Et l'architecture du temple en était le reflet, avec ses différents parvis qui permettaient que personne ne se mélange. Pour commencer, le parvis des païens, là où se trouvent les marchands et les animaux, les changeurs de monnaie, là où Jésus pose son geste prophétique. Et puis le parvis réservé aux juifs, à bonne distance des femmes, puis au parvis des hommes, interdit aux femmes, puis le parvis des prêtres, et enfin le saint des saints, où officiait le grand prêtre. Tout cela sera compris par certains proches de Jésus, ses disciples en particulier, qui auront besoin de temps, mais aussi un coup de pouce de l'Esprit Saint pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Et il est en train de dire, d'une certaine façon, avec cette colère inspirée, que c'est son humanité qui sera le lien et le lieu de la présence et de la manifestation de Dieu au milieu des hommes. Ce sera d'ailleurs la tonalité de tout l'évangile de Jean. Mais on peut entendre aussi cette parole comme une sorte d'intuition, celle que chaque être humain deviendra lui-même le temple du Seigneur ou le temple de l'Esprit Saint, comme l'enseignera un peu plus tard dans ses lettres l'apôtre Paul. Mais nous n'en sommes pas encore là. C'est donc la force du croyant de ne plus être rattaché à un temple de pierre, fût-il à Jérusalem, puisque chacun devient le temple du Seigneur. C'est une parole forte qui prendra tout son sens en temps de persécution, quand le temple sera effectivement détruit par les Romains, que le peuple juif partira pour cette diaspora qui n'aura de cesse jusqu'à aujourd'hui. Ce sera vrai aussi pour tout croyant, chrétien, par la suite, qui n'aura pas d'endroit où poser sa tête, sans lieu de culte précis, si ce n'est l'assemblée des croyants, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce sera vrai encore bien plus tard pour les protestants que nous sommes, dont les lieux de culte seront détruits à la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est encore vrai pour les croyants d'aujourd'hui, persécutés, chrétiens ou non, dont les lieux de culte sont profanés ou détruits. Et c'est peut-être vrai aussi aujourd'hui, en ces temps de pandémie, où pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons plus nous rassembler dans un lieu de culte, ou en tout cas seulement avec un nombre réduit de personnes. Nous sommes pour certains obligés d'être exclus, ou même momentanément, nous sommes obligés d'exclure pour des raisons sanitaires. Nous vivons donc l'Église autrement. Alors c'est peut-être à point nommé qu'arrive notre texte des marchands chassés du temple. Jésus est entré ce jour-là en conflit avec l'institution du temple. Que voulait-il dénoncer? Quelles questions voulait-il poser? Il voulait poser la question de la motivation religieuse de ses contemporains, comme l'Évangile veut poser la question sur la motivation religieuse aujourd'hui de nous-mêmes et de nos contemporains. Pourquoi faites-vous ainsi? À quoi correspond votre pratique religieuse? Attendez-vous quelque chose de Dieu, ou bien croyez-vous que Dieu attend quelque chose de vous? Nous pouvons nous interroger, nous aussi, sur nos pratiques religieuses. Pourquoi venir au temple chaque dimanche? Pourquoi suivre le culte sur Internet? Comment vivons-nous la parole que nous entendons? Notre pratique religieuse nous relie-t-elle à Dieu? Nous relie-t-elle seulement à notre prochain? C'est le moment de faire une relecture de nos pratiques, qui est l'autre sens étymologique du mot « religion ». Que faisons-nous de notre pratique? En faisons-nous une pratique exclusive, indépendamment des consignes sanitaires du moment? Vous le savez comme moi, Dieu est un mot piégé. Ainsi que l'écrivait Raphaël Picon dans l'un de ses éditoriaux dans le mensuel « Évangile et liberté ». Je cite « Dieu est un mot bien trop dangereux pour ne pas l'évangéliser ». Et il poursuivait « Tant de crimes ont été commis en son nom ». Il écrivait encore « Il faut évangéliser Dieu, c'est-à-dire en parler dans les mots de Jésus, l'homme de la parole ». Que nous apprend ce texte aujourd'hui que nous savons déjà? Avec Jésus, nous apprenons ou nous réapprenons que Dieu est le oui magistral accordé à l'humanité. Jésus, c'est le oui de Dieu, mais le oui à qui? Aux prostituées, aux mécréants, aux pestiférés et aux exclus. À tous ceux qui, au regard de la société, ne sont plus rien. Dieu, c'est ce « oui » qui nous remet debout, autrement dit, qui nous relève, qui croit en nous passionnément, obstinément, même quand tout chancelle. Et ça, c'était la fin de la citation de Raphaël. Prenons le temps de faire le point sur notre propre ressenti face à cette sainte colère de Jésus contre ce qu'il jugeait intolérable déjà à son époque, une vie religieuse à plusieurs vitesses qui n'accueillait plus les plus petits d'entre les siens. Aujourd'hui, sommes-nous en colère face à tant d'exclusions que provoque notre nouveau contexte de société causé par cette pandémie? Nous savons que de nombreuses situations intolérables se développent tout autour de nous à nouveau. Est-ce que cela provoque notre colère? Oh, elle n'est pas obligée de se manifester de la même manière que Jésus, mais elle peut se vivre autrement par une sorte de résistance active. Notre temps liturgique de la Passion ne nous est pas proposé pour que nous fassions table rase des choses qui ne vont pas ou qui nous déplaisent, mais d'abord d'accueillir Jésus le Christ dans notre vie par sa parole. Et même si nous avons théologiquement opté pour une Église inclusive, le vivons-nous vraiment? Ne cessons pas de nous poser la question de savoir si nos lieux de culte actuellement accueillent ou excluent, même indirectement. Et selon notre foi qui est la nôtre, sommes-nous toujours convaincus ici et maintenant, que Dieu est le oui magistral accordé à l'humanité? Prenons le temps de laisser la parole de Jésus faire son chemin en nous, habiter notre personne, renouveler notre être intérieur, afin que toute notre personne soit à nouveau le temple du Seigneur, c'est-à-dire une maison de prière, une maison accueillante. Frères et sœurs, amis, profitons de ce temps pour examiner ou réexaminer ce qui fait le fondement de notre foi, ce qui fait la raison de notre pratique religieuse, ce qui fait la logique de nos engagements concrets. Et c'est peut-être le moment de voir s'il n'y a pas des coins secrets de notre personne ou de notre Église, où Jésus ne pourrait pas renverser quelques tables d'indifférence, ou pire, quelques comptoirs d'habitude.
Amen.
Je voudrais bien sûr commencer par, en votre nom à tous, par remercier chaleureusement Agnès Adeline Schaeffer, qui est pasteur à l'oratoire, d'être venue présider ce culte aujourd'hui. Cette interrogation sur ce que nous faisons tous ensemble dans nos temples, sur notre façon de faire église, c'était particulièrement intéressant, je trouve, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous pousse à venir? Que venons-nous y chercher? Quelle sorte de comptoir nous y amène? Et bien entendu, les sacrifices et les animaux sont aussi autant de questions tout à fait intéressantes. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a quelques semaines avec un de mes cousins médecins qui revenait d'une mission au Kenya, en pays Maasai. Et il me racontait que le dimanche, il est allé au culte. Et au culte où, bien entendu, tout le village et bien au-delà venait, le temple était plein de gens qui venaient avec même des animaux, des paniers, etc. Et le culte dure 3 à 4 heures, donc tout le dimanche matin, avec des chants, avec prédications, paroles, etc. Et avec des offrandes très régulières pendant la durée du culte. Et donc, à chaque fois, le pasteur annonce une nouvelle offrande. Et les gens donnent une botte de carottes, une poule, des œufs. Et à chaque fois, le phénomène se reproduit. Et du coup, mon cousin voyait toutes ces victuailles, mais y compris des moutons, etc., passer de l'autre côté de l'autel, dans la sacristie. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le pasteur, avec tous ces trucs-là? Et à la fin du culte, vers midi, au bout de 4 heures... Tout le monde sort sur le parvis du temple, et à ce moment-là, on voit réapparaître toutes les victuailles, les animaux, les œufs, les légumes, etc. Et le pasteur fait une sorte de vente aux enchères, qui, pour qui cet œuf, pour qui cet animal, etc. Et à ce moment-là, les gens donnent de l'argent. Et donc, mais comme un monsieur loyal, quoi, vraiment. Et ensuite, l'ensemble de la collecte, bien entendu, est réparti à ceux qui en ont besoin et à la vie de la communauté. Mais je trouve que c'était quand même, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, une façon de faire église et de partager ce qu'on a mis en commun avec une sorte de comptoir qui était tout à fait à propos. Voilà, donc merci pour cette évocation et pour cette préparation au temps de la Passion et au temps de Pâques qui est devant nous et qui est autant d'occasions de réfléchir ensemble. Alors, quelques annonces pour la semaine prochaine et les semaines à venir. D'abord, nos trois prochains cultes qui vont être très intéressants. La semaine de dimanche prochain, c'est Laurent Schlumberger qui est pasteur à la rencontre, mais qui est aussi un ancien président de l'Église protestante unie de France, qui viendra prêcher donc le 14 en échange de chaire avec Dominique Hernandez. Et puis le dimanche 21 mars, c'est Colline Serrault qui devait venir aujourd'hui et qui n'a pas pu venir et pour lequel nous remercions encore Agnès de l'avoir remplacée quelques semaines, enfin en l'ayant appris quelques semaines avant. Donc Colline viendra avec deux autres chanteurs, puisque vous savez c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui vient maintenant une fois par an prêcher au foyer de l'âme et nous l'en remercions. Et puis enfin, date extrêmement importante, dimanche 28 mars, ce sera l'AG de notre association cultuelle, avec bien sûr précédée par un culte présidé par Dominique Hernandez. Ce sera un culte un peu plus court. J'espère que vous viendrez nombreux à cette AG. C'est très important pour nous tous de partager ce moment ensemble. Alors, pour aujourd'hui également, deux choses. D'abord, la collecte de l'entraide organisée par Romain Charlot, ici présent, qui est toujours aussi actif. Cette collecte de produits va aller à l'épicerie solidaire du 11e. Donc, tous ces produits seront redonnés à une épicerie solidaire qui fonctionne de manière sur une base quotidienne et qui a énormément besoin de dons en produits. Et puis, à noter aussi pour aujourd'hui, la mise en ligne dès ce matin d'une cantate de Bach sur le site du Foyer de l'âme. Donc, nous n'avons pas encore la possibilité d'organiser des cantates en présentiel, vous le savez. Pour autant, nos amis musiciens nous offrent des cantates qui seront mises en ligne et que vous pouvez écouter dès aujourd'hui. Pour cette semaine, alors d'abord, on a aussi l'école biblique, mais ils sont tous partis, on les reverra tout à l'heure, les enfants. Pour cette semaine, mardi 9 à 20h, la réunion du conseil presbytéral. Mardi 9 également, en visio, la pause biblique de 12h30 à 14h. Jeudi, la reprise de la pause biblique, cette fois en présentiel, puisqu'on n'est pas très nombreux. La pause spirituelle, excusez-moi. De 12h30 à 13h30, ici dans ce temple, ce sera donc la reprise en présentiel de cette activité. Vendredi 12, le groupe Théo et Psycho qui aura une réunion en visio. Et puis samedi 13, le groupe Ciel et Terre qui se réunira de 10h30 à 12h également en visio. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour la semaine qui vient ? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez d'autres choses ? Les uns ou les autres ? Donc c'est maintenant le moment de l'offrande. Sortez vos poules, vos canards, vos œufs et vos économies. L'offrande est à la fois un service et c'est aussi une joie. Donc que votre don soit fait avec joie et avec ce sens du service. Et pendant l'offrande, nous chanterons le cantique 249, les strophes 1, 2 et 3. Merci.
Thank you.
place. Prions ensemble. Dieu notre Père, devant les promesses et les exigences de ton royaume, nous ne devrions pas hésiter. Mais nous avons toujours peur d'y perdre. Alors nous nous cramponnons à ce que nous sommes et nous nous crispons sur ce que nous avons. Nous préférons notre méfiance à ta joie, notre incrédulité à ton amour, notre égoïsme à ton espérance. Nous t'en prions, change les orientations de notre cœur, les inspirations de notre volonté, et même les réflexes de notre intelligence. Accorde-nous la grâce de savoir tout lâcher quand le moment est là de saisir les occasions de ton royaume. Alors c'est vrai que la colère inspirée n'est pas accordée à tout le monde. Nous te prions pour celles et ceux qui s'emportent pour ton nom et qui ainsi ouvrent des chemins de vie comme Jésus l'a fait ce jour-là au temple. Nous te prions pour celles et ceux qui sont capables, par leur détermination, de maintenir l'espérance au cœur de l'infortune. Pour celles et ceux qui, par leur ardeur, savent maintenir l'amour au milieu de la haine. Pour celles et ceux qui, par leur obstination, dégagent des chemins de foi vers toi que d'autres peuvent emprunter. Pour celles et ceux qui, par leur intransigeance, ne s'accommodent pas de petits arrangements que la nature humaine est toujours prête à inventer. Pour celles et ceux qui, par leur radicalité, sont conformes à l'image de toi qu'ils sont. Nous te confions encore celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Celles et ceux qui ont faim, celles et ceux qui sont étrangers, immigrés, exilés dans notre pays. Nous te confions aussi les solitaires, les malades, les familles en deuil, les personnes méprisées, les personnes incarcérées. Nous te confions enfin celles et ceux qui exercent l'autorité, que ce soit dans le monde ou dans l'Église universelle. Celles et ceux à qui sont confiés des responsabilités. Et ensemble, nous te disons maintenant la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Amis, frères et sœurs, soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Que le Seigneur garde chacune de nos vies. Qu'il soit au milieu de nous, en famille, tout au long de cette journée, ou aussi avec nos amis, tous ceux que nous rencontrerons d'une façon ou d'une autre. Qu'il soit en vous aujourd'hui et puissiez-vous entendre sa voix. Et que le Seigneur vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre. Allez dans l'amour de votre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche et en conclusion de ce culte, je vous invite à vous asseoir pour écouter le morceau d'orgue.